Voilà, Étienne et Peggy, c'est nous. On vient de Grenoble à ce jour. Nous sommes arrivés à Grenoble il y a 2 ans seulement. Avant cela, j'ai été pasteur donc, dans la même famille d'église, hein, de la Fédération Baptiste que Thierry, pendant 17 ans à Chambéry. Et puis ensuite, nous sommes allés pendant 7 ans à Nice. Et en 2024, un poste particulier s'ouvrait, vous en avez peut-être entendu parler, s'ouvrait dans la Fédération Baptiste pour être responsable, animer, coordonner les activités du secteur enfance et jeunesse. Donc ils avaient besoin de ce qu'on appelle un directeur. Alors à vrai dire, je ne dirige pas grand-chose. Je ne vais pas dire que je ne suis qu'un exécutant, mais voilà, je coordonne la vie du secteur enfance et jeunesse, et ça s'appelle le DEJ, le directeur enfance et jeunesse. Et moi, je suis le petit DEJ de ce secteur. Et j'aime bien les chocolatines, et merci à Raymond pour les viennoiseries ce matin. Voilà, on a été très bien accueillis. Hier, on a passé un temps ensemble avec une partie du conseil, certains animateurs de l'école du dimanche, des groupes d'ados, groupes de jeunes, pour réfléchir à la place des jeunes dans la communauté chrétienne. Qui sont les jeunes d'aujourd'hui? Comment ils fonctionnent? C'est quoi les cases qu'ils ont là? Comment ça fonctionne dans leur tête avec ces outils-là? Et c'était super intéressant d'être chez Tim et Manu, si ma mémoire est bonne, hein, c'est ça. Merci aussi pour l'accueil et le bon repas. Et c'était intéressant d'avoir la présence de ces jeunes à un certain moment et de pouvoir discuter avec eux en vis-à-vis et qu'ils puissent, eux, nous donner un retour. Et je crois qu'on a tous profité de cette belle journée. Et je ne peux que vous encourager. Et alors, un petit défi hein, pour les membres du conseil. Vous avez loupé des choses, hein, Daniel et Christophe. Christophe est là ? Tac, tac, tac. Ah oui, il est là. Non, alors Daniel et Christophe, pardon, Christophe je l'ai vu, c'était Daniel que je n'avais pas vu. Et je ne peux que vous encourager à continuer cette réflexion et à les faire participer à vos projets parce que c'est quelque chose d'intéressant. Nous avons 3 enfants, Peggy et moi, deux filles de 25 et 23 ans et un fils, un dernier petit garçon qui a 20 ans, qui est évidemment plus grand que moi. Et nous voilà donc à Grenoble depuis 2 ans pour cette nouvelle charge de direction enfance et jeunesse. Voilà, je crois vous dire à peu près les choses essentielles. Je crois que c'est toujours moi en tout cas, si j'étais à votre place, je trouve toujours intéressant de savoir qui c'est ce gars qui me parle, de où il me parle, qui est-il, pourquoi a-t-il été invité. Voilà, si vous n'étiez pas là les semaines précédentes et si vous n'aviez pas lu peut-être le petit programme, vous en savez un tout petit peu plus. Voilà, la vidéo est arrivée. Et avant de... Voilà, tu peux envoyer le titre peut-être de ce que je pensais partager avec vous. Et j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il y en a qui voyagent encore avec une carte où vous faites tous confiance au GPS ? Vous faites tous confiance au GPS et en fait, quand le GPS vous dit d'aller à droite, vous allez tous à droite. Selon que vous avez Waze ou Google, ça change un peu. Des fois, Waze adapte le truc. Mais en fait, on est tous un peu des moutons. On se disait avec quelques-uns l'autre jour que le GPS rend un peu idiot. C'est très, très utile. Mais ça fait qu'on suit toujours les mêmes cortèges, en fait. On annihile d'une certaine manière notre capacité à prendre des décisions nous-mêmes. Et ben voilà, dans quel cortège se trouvons-nous, nous trouvons-nous? Est-ce qu'on peut changer de direction? C'est un peu la méditation, la réflexion que je vous propose ce matin. Et donc nous allons lire un récit qui n'est pas simple, qui est un peu sombre. Le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, voilà, ça s'affiche devant vous, et nous le lisons ensemble maintenant, si vous voulez bien. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se redressa et s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous ». Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple ». Je crois que tu peux mettre la suivante déjà. Voilà. Dans quel convoi nous trouvons-nous ? Pourquoi cela ? Parce qu'on voit dans ce récit, le récit de cette résurrection, deux cortèges qui se croisent. L'un qui quitte la ville et qui est porteur d'un mort, il y a un mort sur une civière, et l'autre cortège qui entre dans la ville, celui de Jésus et toute une foule qui suit le maître de la vie. Je ne vais pas ce matin vous dire comment Jésus a fait pour ressusciter ce garçon. J'en suis bien incapable. C'est un miracle réservé à la puissance de Dieu. C'est son affaire. On touche là au mystère divin. Et dans mon humanité, dans ma petitesse, j'accepte cette incompréhension devant la grandeur de Dieu. Il est Dieu, je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas tout expliquer, particulièrement ce miracle. Un miracle, c'est un événement qui sort de l'ordinaire. Certaines lois de la physique, de la biologie, sont bouleversées, remises dans un autre ordre par celui qui les a créées. Il les a mises en place et il a l'autorité d'inverser ces choses-là. Et c'est son affaire. Sont des phénomènes étonnants et pour la plupart inexplicables. Et par la foi, je l'accepte et avec humilité devant Dieu. Cela dit, ce texte me fait réfléchir sur l'état dans lequel nous sommes. Et merci pour cette parole prophétique qui a été donnée, je crois, dans la prière tout à l'heure par Thierry, un appel à quelqu'un parce que je vois des connexions avec ce texte-là. Où est-ce que Dieu veut nous emmener ? À l'époque, les cortèges funèbres sortaient des villes parce que le mort était impur d'une certaine manière et le pur ne pouvait pas côtoyer l'impur. L'impur ou ce qui était en passe de le devenir. La mort ne devait pas être en contact avec la vie. Ceux qui étaient vivants devaient rester, ne devaient pas risquer d'être en contact avec de l'impureté qui pourrait contaminer ce qui est pur. La vie avait quitté ce corps et les deux n'étaient plus associables. Et la mort, quelque part, c'est une expression visible du fait que le mal a gagné sur le bien, la mort a gagné sur la vie. On a donc ici affaire à un ensemble de personnes qui sont dans ce cortège et qui sont tristes. Ils sont accablés, ces personnes sont accablées, il y a des cris de lamentation. Elles sortent de la ville, elles sortent de cet endroit de vie pour aller vers un endroit de mort où on va déposer le mort. On va laisser l'impur à l'extérieur de la ville. De nos jours, dans des situations comme ça, la tristesse s'exprimerait plus dans le silence que dans la lamentation, comme c'était dans le cas des traditions sémitiques, moyen-orientales. On dirait notre incompréhension. Pourquoi le sort s'acharne-t-il de cette façon sur cette famille ? Il y aurait peut-être du questionnement. Où est Dieu dans cette affaire ? Il y aurait de la rébellion peut-être de nos jours pour certaines familles qui ne connaissent pas Dieu. Il y aurait peut-être de la rébellion contre Dieu. Et puis dans ce cortège, il y a une veuve à côté de la civière. Une veuve, ça veut dire qu'elle a déjà perdu son mari et que maintenant elle vient de perdre son fils unique. Elle est comme ces personnes que nous connaissons peut-être, pour lesquelles on se demande pourquoi tant de malheur. Est-il possible qu'elle ait fait quelque chose pour que autant de mal s'acharne sur elle ? On veut rejeter la question, et puis quelque part la question est quand même là, et c'est dur. Et à l'époque, c'est une situation dramatique. parce que cette veuve n'aura plus de ressources. Le mari étant parti, le fils avait pris la charge de ramener un peu d'argent à la maison, le fils s'en va, que va-t-elle devenir ? Et c'est pour cela qu'il y a ces recommandations bibliques, qu'il est important de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et puis dans l'autre sens, je crois que tu peux cliquer encore. Dans l'autre sens, il y a cet autre cortège qui arrive. Une foule nombreuse, nous est-il dit, certainement bruyante. Ils discutent au sujet de tout ce que Jésus vient de faire. Et si vous lisiez précédemment les quelques versets qui précèdent, on voit que Jésus a guéri le fils d'un officier romain. Le mot de transition dans vos Bibles, traduit différemment, c'est, certains disent « ensuite », mais d'autres disent « le lendemain ». Ça veut dire que c'est tout proche. On est là dans une série de faits qui se suivent et Jésus vient juste de faire un miracle avec le fils de cet officier romain. Et on ne peut pas ne pas en parler. Tout le monde n'était peut-être pas présent à Capernaum quand ce fils de l'officier romain a été guéri. Mais en tout cas, les disciples y étaient. Les deux villes sont voisines et ça discute. On peut s'interroger, on peut imaginer les curieux qui sont là. Jésus commence à être connu. Et chacun y va de son avis pour savoir, mais est-ce qu'il est bien le Messie ? Est-il celui qui doit venir ? La joie se manifeste là, il y a quelque chose. Il y a de la curiosité, on s'interroge les uns les autres. On imagine une certaine effervescence. Et ce sont deux cortèges qui se croisent en sens opposé. L'un qui est porteur de mort avec la lamentation, de la tristesse, du questionnement sur le sens de la vie, et l'autre qui avance dans l'autre sens, qui va vers le lieu de vie, avec le maître de la vie au centre. Ces deux cortèges se croisent. L'un est lieu de vie, et l'autre est porteur de mort. Et on ne suit pas la même direction. Et en croisant ce cortège, Jésus est ému de compassion. Il s'arrête, il est touché au plus profond du cœur, et il ne se détourne pas gêné. On n'est pas toujours très à l'aise dans des situations compliquées, devant la mort. Il ne se détourne pas, il ne fuit pas la question, comme s'il ne savait pas quoi faire. Évidemment, lui, le maître de la vie, est très sensible à cela, à la souffrance des personnes. Il vibre au rythme des gens. Et il va offrir une transformation. Une transformation de vie inespérée. Merci. Il s'approche, le cortège s'arrête, et il va toucher la civière. Ça, c'est quelque chose d'absolument étonnant. À une époque où le pur et l'impur, comme je le disais, ne devaient pas se côtoyer, parce qu'on avait peur que l'impur contamine le pur, que le mauvais agresse le bon, le bien, lui fait le contraire. Le pur va purifier l'impur. Le bien va prendre le dessus sur le mal. Le mauvais va être rejeté. Il touche la civière. Et ça a énormément de sens. Peut-être encore plus à l'époque que ce que nous on peut en dire aujourd'hui, mais comprenez-le. Aujourd'hui, si vous vous souvenez de ces temps du Covid, il fallait s'éloigner des gens qui étaient porteurs de quelque chose qui pouvait nous contaminer. Et c'est normal d'une certaine manière. Et lui, il va au contact. Tu es sale, tu es porteur de mal, peut-être tu te sens mal, tu te sens impur, pas de problème, je vais vers toi. Je suis porteur de la vie. Et Jésus donc n'a pas peur de s'approcher de cette civière et de nous aussi quand on se sent sale, impur, indigne et pécheur. La pauvre dame laisse faire. Peut-être n'a-t-elle pas l'énergie de protester. Peut-être a-t-elle entendu parler de lui et y a-t-il un infime espoir dans son cœur. Elle ne dit rien. Peut-être se dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Est-ce que ça peut être pire ? Est-ce le début d'un petit pas de foi ? Peut-être. Qu'aurions-nous pu dire à sa place ? Non, merci, la vie est trop injuste, elle m'a déjà fait trop de mal, laisse-moi tranquille, va-t'en. J'ai pas envie de ça maintenant, laisse-moi avec ma peine. Peut-être qu'aurions-nous dit ça. Laisse-moi, je suis trop mauvais, je suis trop mauvaise, je suis irrécupérable. Parfois certains le pensent. En quoi ce texte peut-il nous parler à nous aujourd'hui, maintenant ? Le texte du Deutéronome, chapitre 30, nous dit ceci : « Je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie, le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu. Si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez d'obéir, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux, alors en d'autres cultes, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. » Bon, c'est très binaire, mais le message est clair. Sur quel chemin veux-tu marcher ? Dans quelle direction places-tu ta vie ? C'est ça que Jésus nous dit là aussi. Quelle est la direction que j'ai donnée à ma vie ? Est-ce que cette direction m'a été imposée d'une certaine manière par d'autres, par les circonstances ? Par un GPS. Mais est-ce que j'ai mon autonomie, ma propre décision à prendre ? Est-ce que je suis obligé de suivre cette direction qui m'est un peu imposée par l'extérieur ? Ou est-ce que je me trouve aujourd'hui, peut-être, et c'est tant mieux, est-ce que je me trouve plutôt dans un cortège qui pleure et qui râle en marchant à l'opposé de la vie ? Ou bien est-ce que je me trouve dans le cortège dans lequel il y a Dieu ? Est-ce que j'ai déjà fait ce choix ? Est-ce que les relations que j'ai avec mon entourage sont vivantes ou sur le point de mourir ? Est-ce qu'il y a des parties de ma vie peut-être qui sont mortes ? Est-ce qu'il y a des parties de ma vie qui ont besoin d'être ressuscitées ? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie dans lesquels Jésus a besoin de poser sa main pour rectifier les choses, pour leur donner un autre sens ? Est-ce qu'il s'agit de ma situation personnelle, dans mon intimité, dans ce qu'il y a de connu de Dieu et de moi seul ? Peut-être s'agit-il d'une situation de famille qui a besoin d'être restaurée, qui va dans le mur, qui est sur le chemin, le mauvais chemin, et on pense que c'est irrécupérable, on pense qu'il n'y a plus rien à faire, on pense que c'est trop mauvais, trop mal barré. Peut-être que c'est la situation d'un groupe, peut-être d'un groupe qui peut être l'Église, qui a besoin d'être restauré, réorienté. Y a-t-il dans votre vie une situation lourde, incompréhensible, que vous n'arrivez plus à surmonter ? Quelque chose que vous n'arrivez plus à gérer et qui vous attriste. Pensez-vous que c'est terminé ? Ou bien, est-ce que déjà marchez-vous à côté de Jésus, au bénéfice de sa présence, suivant sa direction, vous réjouissant ? Est-ce que, cela étant, dans cette dynamique-là, je continue à me conformer à ses recommandations ? Je crois qu'on peut souvent considérer que Dieu croise notre route de cette manière. Il y a des moments dans nos parcours de vie, des moments un peu suspendus, des moments où Dieu nous invite à la réflexion, invite à un changement, comme ce Jésus qui croise la route de ce convoi. Et il arrive qu'il croise notre route. Il considère la situation. Il sait très 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 bien où on en est. C'est pas la peine de le lui cacher. Il n'y a pas besoin qu'on lui fasse des longs discours, il sait. Et cette transformation de vie qu'offre Jésus à cette mère et à ce jeune homme qui se met à parler, forcément ça a des conséquences. Que va-t-il se passer pour cette famille et pour la totalité du convoi qui suit cette civière, que peut-on imaginer qu'il se passe ? Ils vont faire demi-tour. Ils vont rentrer en ville. Ils vont aller dans ce lieu d'effervescence, de vie. Ils vont partager leur joie. Parce qu'il y a de la joie à suivre Jésus. Il y a de la joie à être là auprès du maître de la vie. Et ils s'éloignent de l'impureté. Ils laissent l'impureté dans le dos et ils marchent vers la vie. Ils retournent à la vie. Et je crois que spirituellement, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur des cœurs de celles et ceux qui sont touchés par la grâce. Et je crois que ce message ne concerne pas que ceux qui, d'un côté, connaissent le Christ et de l'autre côté, ne le connaissent pas, mais qu'il peut nous parler aux uns et aux autres. En tant que chrétien, peut-être, où on est dans le creux de la vague. Peut-être qu'on marche la tête baissée depuis un moment, fatigué de ce qui nous tombe dessus. Et on pense que ça ne changera plus. Il y en a qui s'assoient au bord du chemin, peut-être y en avait-il, ça n'est pas décrit dans le texte. Mais y aurait-il, est-il possible qu'il y ait des gens qui soient au bord du chemin, qui regardent les deux cortèges qui se croisent comme ça, et qui sont loin en tant que spectateurs ? Voilà, on est là, fatigué, on s'est assis, on n'a plus le courage d'avancer. On se demande pourquoi celui-là marche dans l'effervescence et l'autre, on a bien compris qu'il marche vers la tristesse et c'est ce qui nous parle presque le plus. Et pourtant, Jésus est là. Si vous faites partie de l'un de ces publics, partie de ceux-là, peut-être de ceux qui se sont arrêtés, vous pouvez recevoir cette parole de Jésus qui dit « Je suis là, je croise ta route, je suis capable de transformer toutes les situations et même ceux qui t'accablent. Lève les yeux, regarde à moi, viens, fais demi-tour, lève-toi, je t'emmène. » Le texte un tout petit peu plus loin, je ne suis pas sûr de l'avoir mis. Non, ce n'est pas celui-là, retire, remonte, merci. Juste après ce miracle, le texte nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le texte nous dit ceci, Luc chapitre 7, verset 18, « Jean fut informé par ses disciples de tout ce qui se passait. Il appela alors deux d'entre eux et les envoya auprès du Seigneur pour demander « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Quelque part, Jean se pose les mêmes questions qui éventuellement étaient dans le cortège. Mais c'est qui ce gars ? Est-ce que c'est vraiment le Messie ? Devons-nous en attendre un autre ? Les amis, nous avons la réponse. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre ressource. Pour la vie, pour l'espérance, pour la paix intérieure, il n'y a pas d'autre ressource. Ce n'est pas mes biens acquis, ce n'est pas mes habitudes, ce n'est pas mes forces personnelles, ce n'est pas les théories que j'ai mises en place, c'est pas les rituels qui me rassurent, c'est le Christ qui donne la sécurité et la vie. Il lit dans les cœurs, nous le savons, l'Esprit Saint entend les prières intérieures, il sait les soupirs que vous exprimez les uns les autres. L'Esprit Saint, c'est là, c'est maintenant, Romains 8, verset 26, l'Esprit Saint nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Il le sait bien. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Demandons. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il entend ces appels qui montent vers lui, même si c'est mal dit, même si c'est exprimé bizarrement, même si c'est exprimé un peu comme cet homme dans la Bible qui dit « Je n'ai pas la foi, aide-moi à croire. » Vous savez, cet homme qui parle lui aussi de son fils qui était perdu, qui était malade. Aide-moi à croire. il entend les mots M-A-U-X, il comprend ces mots M-A-U-X, et il entend les mots M-O-T du cœur. Il est le Dieu de la vie, il est celui qui peut transformer. Et j'aimerais prier pour vous maintenant, pour conclure ce temps de méditation, dans ce sens-là, et que chacun, peut-être dans ce qu'il porte, ait la simplicité de laisser Dieu le toucher, comme Jésus a touché cette civière, et dire, ben, Seigneur, j'ai besoin que tu restaures les choses dans ma vie. Je veux me laisser conduire par toi, et j'ai envie de changer de direction. J'ai envie de changer de direction. Je veux marcher là où il y a la vie. Je vous invite à prier.